Bonjour chers fidèles IDFM, c'est Didier pour un nouveau rendez-vous compte, un rendez-vous compte où nous allons dardard, parler d'art, quitte à voyager sous X, rendez-vous compte. Nous allons en effet aujourd'hui retrouver Nicolas Martin, notre ami chroniqueur habituel, peintre et critique d'art, qui chaque mois nous présente dans sa chronique Argument, l'une des grandes expositions en cours dans les grands musées parisiens, ce qui va encore être le cas aujourd'hui. Et pour commencer, voici la très belle chronique que Nicolas consacre au tableau Madame X du peintre américain John Singer Sargent, qui provoqua dans les années 1880 un tel scandale qu'il fallut remplacer le nom du modèle représenté, la jeune et belle femme d'un banquier parisien, remplacer ce nom par la lettre X, à la fois anonyme et infamant.
L'œuvre du temps. Le printemps de l'année 1884, je revois encore la lumière pâle hésitante qui se frayait un chemin à travers les dernières brumes de l'hiver, avait jeté sur Paris un frisson particulier, cette sorte d'agitation qui anime les conversations et flatte les jalousies. Les salons que j'avais fréquentés plus souvent qu'il n'eût été prudent s'étaient enflammés autour d'une querelle esthétique qui n'aurait pu naître qu'en ce temps-là, dans cette ville-ci, au cœur d'une société où la présentation d'un tableau pouvait être un événement aussi retentissant qu'un traité diplomatique ou qu'une rupture d'alliance. Les journaux, qui n'avaient jamais laissé passer l'occasion de muer les murmures en tempête, avaient déjà ouvert le bal des indignations. Les dames du faubourg Saint-Honoré, celles-là même que l'on croyait occupées par les seuls caprices de la mode, avaient pour un temps délaissé les soirées et chapeaux pour se dresser vent debout et condamner ou défendre, c'est selon, l'audace d'un peintre. Quant à moi, spectateur à demi distrait de cette comédie, j'avais reçu par un concours de circonstances dont je n'ai jamais su s'il fallait le qualifier de faveur ou de hasard, l'invitation à rendre visite à John Singer Sargent dans son atelier du 41 boulevard Berthier. Ce lieu, que j'avais atteint après avoir gravi un escalier raide et usé, enveloppait ses visiteurs d'une atmosphère où la discipline du travail épouse la ferveur de l'art. Et l'odeur, mêlée de cire et de vieux bois, qui montait comme une haleine tiède et qui vous assaillait, n'était pas sans rappeler ces pièces retirées des bibliothèques de province. Lorsque la porte s'était ouverte, une lumière blanche et spectaculaire, tombant d'un haut plafond vitré, avait dévoilé une vaste scène silencieuse. À gauche, j'avais immédiatement remarqué la table, encombrée de pinceaux, de mortiers et de pigments, qui voisinait une multitude de petits godets empli d'huile de lin et de térébenthine, instrument d'un rituel presque alchimique, dont s'exhalait une odeur entêtante. L'ordre et la rigueur transpiraient de l'agencement de cette pièce, dont la sobre décoration confinait au dépouillement. À droite, je remarquai des toiles de lin finement tissées, et que je reconnus pour avoir été confectionnées par le marchand d'art Harding, qui tenait boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. Pudiquement retournées, méticuleusement adossées à l'un des murs, elles semblaient attendre, comme de petites danseuses dissimulées derrière le rideau, qu'on les fît entrer en scène. Ce jour-là, c'est Madame Virginie Amélie Gautreau, femme du banquier parisien Pierre Gautreau, et mondaine dont la réputation était copieusement commentée, qui prenait la lumière, installée sur une petite estrade de pose qu'elle connaissait si bien, puisque cela faisait bientôt une année que le peintre faisait son portrait. Une inhabituelle temporalité qui devait tout aux difficultés que cette dame avait à trouver le temps de venir prendre la pose. Que l'on songe que c'est le peintre lui-même qui, peu coutumier du fait, avait tout mis en œuvre pour convaincre le modèle récalcitrant d'accepter la pose afin qu'il puisse rendre, selon les mots qu'il employa, un tel hommage à sa beauté. Son teint, d'une blancheur que l'on eût dite entretenue par un pacte avec l'ombre, contrastait avec la noirceur austère de la robe dont elle était vêtue. La jeune femme se tenait debout, près d'une table de bois ronde et soigneusement vernie, sur laquelle elle faisait élégamment mine de s'appuyer. Sa pose, droite, presque hiératique, qu'elle peinait à maintenir, me parut moins celle d'une femme bien vivante que celle d'une effigie antique née pour régner. Dans son regard lointain, on lisait une quiétude. Sargent, arborant un costume trois pièces, se tenait dans le coin de l'atelier, fier devant son chevalet. Il avait déjà largement progressé sur sa toile. Un brun chaud, fruit de couches de glacis superposées avec patience, habillait harmonieusement le fond. La robe, qu'il reprenait justement ce jour-là, mêlait des noirs d'ivoire à des éclats de bleu de Prusse, des bruns Van Dyck et de discrets verts de gris. Autant de nuances que l'œil distrait ignore, mais que le regard de l'amateur sait discerner et apprécier. Après des mois de travail consacrés à ce portrait, le peintre l'achevait, avec cette minutie silencieuse qui précède l'ultime coup de pinceau. Il n'avait pas encore remarqué ma présence. Je m'étais avancé en silence afin de mieux attacher mon regard à l'épaule du modèle. Mes yeux allaient et venaient, dans un mouvement que je ne pouvais réprimer, de Madame Gautreau à son double fixé sur la toile. L'effet était saisissant. Sargent venait de donner vie à ce qui allait devenir, sans qu'il pût encore le pressentir pleinement, la cause prochaine d'un tumulte mondain. Dans l'air clair de l'atelier, un léger souffle de subversion, discret mais palpable, semblait flotter comme une senteur imperceptible que l'on devine avant de pouvoir la nommer. Là, sur la toile, une bretelle dorée, peinte avec une mollesse étudiée, qui ne devait rien au hasard, glissait de l'épaule blanche et poudrée pour venir reposer avec une négligence calculée à mi-bras. Ma surprise fut d'autant plus vive lorsque je constatai que, sur le modèle juché en son estrade, cette même bretelle demeurait sage, à sa place, dans la correction la plus irréprochable. Me vint alors cette réflexion. Sargent avait-il pris cette liberté sur l'instant, habité par une inspiration subite? Ou l'avait-il longuement envisagée, mesurant déjà l'effet qu'elle produirait dans l'enceinte du salon? Cette fine ligne de tissu doré, à peine un ruban, pouvait devenir la fissure par laquelle s'engouffrerait tout le vent d'un scandale. Et je songeais, tout en le regardant, que les grands peintres ont parfois le don de tendre, d'un geste, une corde invisible entre l'audace et la provocation. Le silence, lourd comme avant un temps orageux, n'était troublé que par le froissement des poils du pinceau sur la toile et par les pas du peintre qui avançait et reculait vers son tableau pour en réévaluer l'effet. L'odeur, à présent entêtante de l'huile fraîche et des essences, me saisissait. Je quittai l'atelier sans un bruit et sans me signaler à l'artiste, le modèle ayant, c'était manifeste, décidé d'ignorer ma présence. Du reste, si je ne reçus pas de réponse aux questions que j'avais gardées pour moi-même ce jour-là, je n'eus pas à attendre longtemps pour les obtenir. Lorsque le tableau fut accroché au Salon des artistes français, quelques semaines plus tard, il attira une foule hétérogène, composée de critiques, de curieux et de dilettantes, dont la diversité même donne à Paris son étrange mélange de profondeur et de frivolité. Les lorgnons s'ajustèrent, les éventails se fermèrent dans un petit claquement sec. On se pencha, on recula, on revint. Les mines, un temps se décomposaient, en un autre se fronçaient. Les plus indulgents parlèrent d'une maladresse, les plus sévères d'une provocation calculée. La bretelle, peinte alors plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui, devint le point d'achoppement autour duquel s'enroula le nœud du scandale. Ce soir-là, de 1884, je me souviens avoir dîné chez la duchesse de Montreuil, dont le salon servait de véritable tribunal mondain. La salle à manger, feutrée, illuminée par des candélabres d'argent, exhalait cette odeur mêlée de cire chaude et de sherry qui annonce les longues soirées. Le docteur Lemarchand entreprit. La pauvre mère Gautreau s'exclame partout que sa fille est déshonorée, et il est vrai que la petite est la risée de tous les salons. « Cher ami, me dit la duchesse, avez-vous vu ce fameux tableau ? Tout en reconnaissant certaines qualités dans son exécution, il est d'une parfaite vulgarité. » « Je l'ai vu, répondis-je, même bien vu, et avant qu'il n'eût quitté l'atelier. Ah, je ne peux vous croire. Mais alors dites-moi, s'empressa d'ajouter le critique au nez aquilin et au ventre bombé à demi renversé sur sa chaise. N'est-ce pas là la preuve que l'art moderne a perdu toute mesure ? Un jeune peintre, en bout de table, invité pour amuser l'assemblée, tenta un trait d'esprit. Ou bien qu'il a enfin trouvé le courage de rompre avec la mièvrerie. La duchesse eut ce sourire qui fermait toute discussion, et, après un moment, dit à voix plus basse. « Une épaule nue peut être charmante, encore faut-il savoir la peindre. » Les années avaient passé depuis cette soirée, et avec elles, le scandale. Sargent avait quitté Paris pour Londres. Madame Gautreau, bien qu'elle fût aperçue à quelques rares occasions, s'était progressivement retirée de la société parisienne. Quant au tableau, il avait traversé l'Atlantique et trouvé refuge, en 1916, au Metropolitan Museum de New York, après avoir été un temps exposé à Londres. Cette même année, par un après-midi d'hiver, je décidai de m'y rendre. L'air filtré de ces musées, tempéré et clair, s'accompagnait du silence particulier que l'on ne rencontre guère qu'en Amérique. Pas de chuchotement ni de murmure outré, mais le seul pas feutré des visiteurs. Et là, au centre, je la revis. Elle était demeurée la même, familière, mais débarrassée de l'odeur de soufre qui l'avait accompagnée. Le nom de Madame Gautreau avait d'ailleurs été effacé du tableau suite à la dispute entre l'artiste et son modèle pour être rebaptisé simplement Madame X, ce qui permettait d'entretenir le secret sur son identité. Le noir de la robe gardait ses reflets et la peau sa lumière douce. La bretelle, réajustée quelque temps après le salon des 1884 pour apaiser les esprits d'alors, n'avait ici plus rien à cacher. Le tableau, loin du berceau qu'il avait vu naître, exilé de l'autre côté de l'Atlantique, offrait enfin ce qu'il avait toujours porté en lui. Un équilibre parfait. Quelque peu vide, étrangement, me semblait-il. En la contemplant, je compris que l'œuvre ne devait plus tout à Sargent. Le temps, ce peintre invisible et patient, y avait mis aussi la main. Il avait poli les angles, effacé les cris du scandale, éteint les querelles. Alors que je m'apprêtais à quitter à regret les lieux, comme on tire une révérence ou on murmure un adieu, je croisai un jeune homme frêle sur le point d'entrer dans la grande salle. Ses yeux, au moment de découvrir la toile, s'élargirent, tels ceux de l'enfance et dans une stupeur muette. Ce regard, je l'avais eu 30 ans plus tôt, et je compris en silence que le témoin que j'avais été jadis n'était plus. Je songeais, en sortant du Métropolitain, que le temps ne conserve pas les œuvres inchangées pour qu'elles vieillissent comme momifiées dans leur propre histoire, mais qu'il ne cessait de les offrir, dans 1000 lectures concurrentes, à chaque génération, comme si elles venaient d'être peintes et dévoilées, dans leur entière et première fraîcheur, avec une grille de lecture évoluant sans cesse. Ainsi, je crois, doit s'accomplir sous nos yeux et ceux de nos enfants la plus belle des leçons, celle de l'œuvre du temps. À bientôt dans Arguments.
Merci Nicolas. Nicolas Martin pour cette nouvelle et remarquable chronique consacrée ce mois-ci au peintre américain, mais qui a vécu à Paris, John Singer Sargent, et en particulier à son tableau Madame X. Une chronique en forme de page de roman que tu as rédigée, Nicolas, à partir d'éléments historiques, bien entendu. Alors, chers fidèles d'IDFM, ne manquez pas la rétrospective de l'œuvre de Sargent, qui se tiendra au musée d'Orsay du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026. Nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous conte consacré à la création artistique, en particulier la peinture. Et nous marquons une première pause musicale avec cette très émouvante chanson de Serge Reggiani qui, en 1990, évoquait le désespoir du peintre dont la vie n'a pas eu le talent de lui donner l'œil d'aigle de Renoir et qui doit se contenter de peinture lurée. Et moi, je peins ma vie, Serge Reggiani.
Avec mes larmes, avec mon sang et l'encre rouge et bleue de ma mémoire. Avec des films en noir et blanc, avec des femmes en blanc et noir. Avec le grand pinceau du temps et la palette de mon désespoir. Avec la toile que me tend le grand absent du reposoir. Je peins ma vie comme je peux. Je peins ma vie comme elle vient. Excusez-moi du peu. Je peins.
Nous retrouvons dans ce rendez-vous conte notre chroniqueur d'art, Nicolas Martin, peintre lui-même. Nicolas, depuis toujours, est fasciné et inspiré par les impressionnistes. Il nous le confiait d'ailleurs dans notre émission du 30 janvier 2025 que nous lui avions consacrée et qui est toujours en podcast sur le site d'IDFM. C'est ce dernier courant qui a déterminé ta vocation, ta passion je dirais, à partir d'un reportage que tu as vu à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que c'était comme reportage ?
Alors, bien évidemment, le souvenir, c'est un peu altéré, un peu effacé, mais j'en garde quand même une certaine précision. C'était un reportage sur, bien sûr, Claude Monet, qui retraçait évidemment sa trajectoire artistique et son évolution. Et je me souviens encore de la fin du reportage où défilaient des panoramiques sur les toiles des nymphéas. Et j'étais en train de réaliser quelque chose d'important que j'ai mesuré finalement bien plus tard. C'est que le monde ne nous est donné qu'à voir que par une perception, par un prisme qui est propre à chacun. Et que du coup, on peut représenter le monde de plein de façons différentes. Et l'impressionnisme, c'était comme un voile qui s'ouvrait ou qui s'enlevait sur une façon de montrer les choses, de montrer la nature, de montrer les choses simples avec un réalisme, une authenticité qui m'a vraiment transpercé à l'époque. Et j'ai réalisé qu'en fait, pour représenter le monde, on n'avait pas besoin d'être dans la fidélité absolue. C'est pas une photo, mais bien au contraire, on pouvait avoir des émotions simplement avec des touches de peinture qui se juxtaposent et qui, par un rythme, s'assemblent et forment un mouvement.
Voilà, c'est dans ce sens que, sur ton site internet, tu affirmes que l'impressionnisme irrigue encore ta peinture parce qu'il a donné naissance à une peinture visionnaire et intemporelle, sinon d'une absolue modernité. Quand on parle des impressionnistes, on ne pense pas forcément que c'est encore moderne et d'actualité. Mmh. Or, ça l'est.
Oui, ça l'est. En fait, je pense que c'est une question de regard et de point de vue. L'impressionnisme, qui fête ses 150 ans, reste une peinture extrêmement appréciée. Et je pense qu'il y a une vraie raison pour cela, à savoir, d'en parler, le regard sur le monde et la vivacité et aussi les sujets qui sont traités, à savoir, une rivière reste une rivière. En 1850, en 2024, ça reste quelque chose d'assez identique. Le mouvement des arbres et des feuilles dans le vent, le soleil qui vient se poser sur un chemin, un rocher ou sur une maison. Et finalement, l'émotion qu'on peut ressentir aujourd'hui, je pense qu'elle était assez semblable à ce que pouvaient ressentir les peintres de l'époque.
Vous ne manquerez donc pas l'exposition du peintre John Singer Sargent au musée d'Orsay du 23 septembre jusqu'au 11 janvier 2026. Comme Nicolas vous en a donné envie dans sa chronique du début de l'émission. Mais vous ne manquerez pas non plus trois expositions qui ont lieu ou vont avoir lieu dans notre département à Auvers-sur-Oise. Le 4 avril dernier, je recevais dans Rendez-vous Compte Madame Agnès Saulnier-Chemin, directrice du musée d'Aubigny à Auvers, venue nous présenter la magnifique exposition intitulée « Âme animale » qui propose une sélection des 80 animaux les plus fabuleux parmi le bestiaire exceptionnel réuni au musée d'Aubigny. Un bestiaire qui témoigne de la diversité des représentations animalières du 19e à nos jours. En particulier des œuvres précieuses du grand maître japonais de la manière noire, Koji Ikuta, mise à l'honneur sur l'affiche qui reproduit l'une de ses œuvres exposées, Le dieu du vent, gravure manière noire, extrait de notre entretien avec Madame Saulnier-Chemin, directrice du musée. Au XVIIe siècle, Descartes estimait que les animaux n'avaient pas d'âme. Madame, vous êtes commissaire de cette exposition au musée d'Aubigny, qui se tient jusqu'au 21 septembre 2025, et dont le titre même semble répondre à notre célèbre philosophe. Quel est le titre de cette exposition ?
Alors, l'exposition, elle s'appelle « Âme animale ». Parce que, il faut voir l'exposition pour vraiment le comprendre, mais effectivement, on présente des animaux, notamment les animaux d'un artiste dont on va parler, je pense, qui s'appelle Koji Ikuta, et qui sont des animaux dont la ressemblance avec l'homme est frappante. Et justement, c'est un artiste qui a voulu représenter les émotions humaines par le biais des animaux. C'est ce qui a donné le titre de l'exposition.
Alors, vous avez un bestiaire exceptionnel, je crois.
Oui. Au musée, on a un bestiaire exceptionnel. Alors, en fait, cette exposition, elle est conçue un petit peu comme un hommage, parce qu'on va fermer l'année prochaine pendant 2 ans pour travaux. Donc c'est la dernière exposition avant la fermeture et on a conçu cette exposition un peu comme un hommage au travail qui a été fait depuis plus de 25 ans sur l'art animalier. Parce qu'en 2000, on a reçu une exceptionnelle collection de 200 chats qui vont de la sculpture du 19e siècle jusqu'à l'art contemporain, mais en passant vraiment par des artistes illustres. C'est une collection qui était très riche au départ et donc qui a été nourrie au fur et à mesure des années en s'éloignant de la figure uniquement du chat. Ce qui fait que désormais, on a une collection d'art animalier qui est particulièrement importante.
Et dans toutes les réalisations plastiques, si on peut dire, c'est bien de la gravure que d'autres formes.
Ah oui, tout à fait, dans toutes les techniques.
Voilà.
Beaucoup de gravures, mais on a aussi des œuvres sculptées et des céramiques qui sont très, très belles. On a toutes les techniques.
Des grands maîtres de la céramique, comme par exemple René Lalique. Quand même, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Franchement. Alors, déjà, l'affiche de l'exposition est fabuleuse. Fabuleuse dans les deux sens du terme.
Merci.
Elle est magnifique. Et en même temps, elle fait un peu penser aux fables, aux contes, un petit peu à toutes les légendes sur ces animaux de la nuit.
Oui.
Voilà.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle représente, cette affiche?
Alors, l'affiche de l'exposition, effectivement, c'est une œuvre qui a été choisie avec soin. C'est un grand hibou qui s'apprête à s'envoler. C'est une œuvre de Koji Ikuta. Koji Ikuta, c'est un artiste contemporain, qui est encore en vie, qui est un grand graveur en manière noire. C'est un japonais. Et l'année dernière, en 2023, le temps passe vite, on a reçu un don de 90 gravures de Koji Ikuta de la part de Jean-François Chassin, qui était l'un des grands défenseurs de la gravure en France, et qui avait choisi de léguer sa collection de Koji Ikuta au musée d'Aubigny, et il avait fait ce choix en partenariat avec l'artiste. Donc on était très touchés qu'il nous ait choisi, nous. Et on est le seul musée en France à avoir l'extrême privilège de présenter son travail.
Une exposition à ne pas manquer donc au musée d'Aubigny d'Auvers-sur-Oise jusqu'au 21 septembre. Autre exposition incontournable à Auvers toujours, peinture et masques issus des réflexions sur la vie de Van Gogh à l'aide de masques vénitiens. Une initiative surprenante de l'artiste Sergio Boldrin à la Maison Rose de Balleran, dont je recevais le 15 mai le président Ulrich Martin, qui nous a présenté cette étonnante initiative. Alors, dernier projet, c'est, alors là, ça m'a un petit peu étonné, exposition Van Gogh en masque vénitien.
Oui, alors là aussi, c'est vraiment une très très belle rencontre qui a eu lieu il y a pas très longtemps avec Sergio Boldrin, qui est un artiste artisan, on va dire. C'est quelqu'un qui fait des masques vénitiens à Venise, donc il habite Venise. Il a un magasin là-bas et il crée donc des masques. Alors, il fait ça vraiment dans l'art astral, c'est-à-dire que c'est en papier mâché. Et il y a quelques années, alors, c'était au départ un fou de Modigliani et il a rencontré une personne qui malheureusement est décédée là, mais d'ailleurs, il veut organiser cette exposition en son hommage. Cette personne lui a dit, mais est-ce que tu connais Auvers-sur-Oise? Il connaissait pas et donc il l'a emmené Auvers-sur-Oise et c'est là où, il y a plus de 20 ans, Sergio a rencontré, on va dire, Vincent Van Gogh. Et il en est devenu complètement fou et à tel point qu'il a visité tous les endroits où est allé Vincent. Et il en a fait donc une exposition où, alors parce qu'il est peintre également, et donc c'est une exposition où il y aura des masques qui représentent Vincent et beaucoup de tableaux qui s'inspirent des œuvres, enfin des tableaux de Vincent Van Gogh. Et ça va être magnifique parce qu'il m'a dit qu'il allait, parce qu'il est revenu là il y a quelques jours pour justement revoir le lieu et mettre en place toutes ses idées. Et il va faire un grand masque de 2 mètres de haut, en gros, et qu'on va mettre devant la verrière et éclairer. Et donc, les gens pourront voir ça de l'extérieur. Donc, je pense que ça va être assez magique. Et donc, c'est du 12 septembre au 31 octobre. Et ça s'appelle effectivement Venise à Auvers-sur-Oise, Van Gogh en masque vénitien. C'est Sergio Boldrin, maître créateur de masques contemporains et traditionnels en papier mâché.
L'exposition « Peinture et masques issus des réflexions sur la vie de Van Gogh à l'aide de masques vénitiens » vous attend donc du 12 septembre au 31 octobre à la Maison Rose de Valran, 59 rue d'Aubigny à Auvers, entre 14 et 18 heures en semaine, 11 heures et 18 heures les week-ends. Vernissage demain, attention, vendredi 12 septembre à 19 heures. Tous les renseignements sur le site internet de la Maison Rose de Valran, bien sûr. Seconde pause musicale, Yves Duteil avec sa chanson « Un brin nostalgique ». regard impressionniste, qui en 1987 évoquait le jardin de Monet et le soleil de Renoir.
C'était au grand palais, sur des toiles de maître, il y avait un Monet et deux ou trois Renoirs. Le cœur dans les tableaux, je me sentais renaître, et en fermant les yeux, je pouvais les revoir. Le monde a la beauté du regard qu'on y pose. Le jardin de Monet, le soleil de Renoir ne sont que le reflet de leur vision des choses, dont chacun d'entre nous peut être le miroir. La vie nous peint les jours au hasard du voyage, en amour, en douleur ou en mélancolie. C'est un peu de ce temps qu'on laisse en héritage, enrichi du regard qu'on a posé sur lui.
Enfin, dernière exposition à découvrir à Auvers toujours, des imaginaires au bord de l'Oise, dans les pas de Daubigny. À la maison atelier de Daubigny, 61 rue Daubigny, voilà, c'est simple, à Auvers-sur-Oise donc. Une démarche et une réalisation que nous présente Emmanuel, qui en a été partie prenante.
Dans les pas de Daubigny, c'est une exposition dans la maison atelier de Daubigny, à Auvers-sur-Oise, de 5 dessinatrices, qui explore l'esprit du peintre dans les paysages peints, dessinés, de l'Oise, proche de l'atelier, chacune selon sa technique, sa vision, son appétit du moment. C'est d'abord par son arrière petite fille Amélie Cazalet et de sa cousine Emmanuelle Thieu, qui passe des Noëls dans cette maison peinte, qu'une envie de projet naît. Puis s'y joignent Caroline Bouillet, Claire Davril, Olivia Descortes, qui tombent sous le charme de la démarche du peintre et de la beauté de ses peintures, et viennent confirmer l'envie de dessiner toutes ensemble dans les pas de Daubigny. C'est donc lors d'un week-end de croquis sur le Beautin et sur les bords de l'Oise que se feront la plupart des travaux sur le vif, sans retouche. S'y raconte Daubigny dans la lumière, la couleur, les tracés de chacune. Dans les pas de Daubigny, c'est en septembre, les week-ends du 13, 20 et 27, 10h30, 12h30, 14h, 18h30, avec une fermeture exceptionnelle le 13 au matin. Nous vous attendons pour le vernissage le samedi 13 septembre à 18h au 61 rue Daubigny à Auvers-sur-Oise. Toutes les informations sont sur le site internet atelier-daubigny.com.
Exposition au musée d'Orsay du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026 des œuvres de John Singer Sargent et en particulier de son tableau Madame X que nous a présenté Nicolas Martin dans sa chronique au début de l'émission. Magnifique exposition intitulée Âme animale au musée d'Aubigny jusqu'au 21 septembre à Auvers, donc horaire à vérifier sur le site du musée. Mais aussi exposition, peinture et masques issus des réflexions sur la vie de Van Gogh à l'aide de masques vénitiens du 12 septembre au 31 octobre à la Maison Rose de Valran, 59 rue Daubigny à Auvers. Vernissage, je vous le rappelle, demain, vendredi 12 septembre à 19h. Et enfin, des imaginaires au bord de l'Oise dans les pas de Daubigny proposés par 5 jeunes femmes peintres à la Maison Atelier de Daubigny, 61 rue Daubigny. Vernissage après-demain, samedi 13 septembre à 18h. Et pour rester dans l'ambiance, ne manquez surtout pas, avant ou après votre passage à ces 3 expositions à Auvers, d'aller découvrir l'Absinthe et son fabuleux musée au 44 rue Alphonse Calais à Auvers, où vous serez chaleureusement accueillis par Ghislain et Julien que nous recevrons bientôt à ce même micro. Ainsi se termine notre rendez-vous compte spécial exposition, à retrouver en podcast sur le site d'IDFM, bien sûr, avec tous les autres rendez-vous compte des années précédentes. C'était Didier. Merci Nicolas, Agnès, Ulrich, Emmanuel. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous compte, même heure, même adresse, pour d'autres rencontres, d'autres destins insolites, engagés et créatifs. Mais, chers fidèles d'IDFM, je vous retrouve désormais aussi le dimanche dans la matinale de Mehdi pour ma nouvelle chronique Nec plus Ultra, où je vous propose de redécouvrir l'origine et le sens actuel de ces expressions venues du latin ou de la mythologie grecque et qui sont encore présentes dans notre langue française d'aujourd'hui. À dimanche pour Nec Plus Ultra et à jeudi prochain pour un nouveau Rendez-vous Compte.